Je suis Marie-Pierre Deschaines, fondatrice de Comme des lapins. Chaque semaine, jasons ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. J'espère que le mois de janvier se passe bien pour vous. On est déjà à la fin du mois. Dans mon cas, j'ai vraiment pas vu le mois de janvier passer. Ça a été vraiment rapide. Malgré tout ce qui se passe ici, pour celles qui se le demandent, au Québec, on est en reconfinement aussi. Il y a le couvre-feu qui s'applique jusqu'au 8 février, si je ne me trompe pas, pour l'instant, à moins que les dates changent d'ici là. Mais bref, c'est ça, le mois de janvier s'est quand même passé rapidement. Puis, il y a quelques temps, j'ai eu un flash en fait, parce qu'en 2021, j'ai le goût d'aborder des sujets différents sur le podcast. Je pense que c'est quand même une intention qui est assez vaste, mais... J'avais vraiment envie de vous parler d'un thème qui rejoint mon parcours plus académique, plus universitaire, en fait, pour celles qui sont nouvelles ici ou qui ne me suivent pas depuis très longtemps. J'ai fait des études universitaires à partir de 2009, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. 2009, je suis rentrée à l'université. Puis... C'est ça, en fait, j'ai fait un bac en anthropologie et sociologie. Puis ensuite, j'ai entamé un parcours de maîtrise en anthropologie que j'ai pas terminé. Et par la suite, j'ai fait ma maîtrise en travail social que j'ai terminé en 2016. Donc, ça fait déjà plus de 4 ans et demi que je suis sortie de l'école, mais je me plais à dire que je suis une éternelle étudiante parce que je suis des formations en ligne, je m'intéresse à une tonne de choses, j'ai soif d'apprentissage et pour moi, c'est vraiment au cœur de mon existence et de ma pratique aussi, parce que je pense que pour être la meilleure personne pour accompagner mes clientes, je me dois justement d'être à l'affût des nouveautés, puis aussi au-delà des nouveautés, en fait, être à l'affût des apprentissages que je peux faire, de comment je peux transformer mes façons de faire. Et justement, ce qui est bien, c'est que en travail social, on a appris, en fait, il y a un espèce de concept qui parle des trois types de savoir. Donc, le savoir en tant que tel. Donc, tout ce qui rassemble les connaissances plus académiques, plus techniques. Le savoir-faire qui rassemble toutes les techniques pour mettre en application ce savoir-là. Et le savoir-être, qui est en fait la façon dont on agit, dont on accueille l'autre. Puis en fait, c'est ça. L'accueil, c'est parmi le concept, en fait, parmi les concepts qui sont les plus importants pour moi. Le fait d'accueillir l'autre avec couverture, dans le respect, dans le non-jugement, pour moi, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte avec le temps que sans vraiment mettre ça de l'avant, mon parcours académique teintait vraiment mon approche, parce qu'en fait, tous les apprentissages que j'ai fait durant ces 7 années-là. En fait, ça fait partie de moi, puis je me rendais compte que je mets pas ça de l'avant. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un un excès d'humilité ou je sais pas quoi en fait, mais je trouve ça important de ressortir ça puis d'en être fière, parce que même si je ne travaille plus directement en lien avec ce parcours-là, je pense que la relation d'aide est au cœur justement des services que j'offre, du contenu que je crée, de mon approche. Donc pour moi, c'est important de transmettre le fait justement que cette approche-là est ancrée dans des connaissances qui sont tangibles, dans un parcours justement qui est très concret. Puis c'est aussi pour ça que je voulais vous parler justement du concept d'intersectionnalité justement dans cet épisode-ci, parce que je trouve que en fait c'est un concept dont on parle très peu de façon accessible, j'oserais dire, parce que c'est un concept dont j'ai seulement connu l'existence quand j'étais au bac. Et puis pour moi, ça a été vraiment comme un éveil, en fait, un éveil à la diversité. Et je pense qu'on ne peut pas parler de ce concept sans parler aussi du concept de privilège, dont je vais vous parler plus tard dans l'épisode. Mais juste avant, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Oui, puis aussi, en fait, juste pour vous donner un... pour vous mettre en contexte, durant ma maîtrise, j'ai publié un mémoire de recherche qui a pour titre « Identité de genre et vieillissement, un regard intersectionnel sur l'expérience vécue des aînés trans en Outaouais », parce qu'il faut savoir que j'ai fait mes études dans cette région-là du Québec. En fait, mon échantillon était tiré de cette région-là. Et j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec des aînés trans, donc des personnes trans, qui ont participé justement à des entrevues de recherche et qui ont fait en sorte que cette recherche-là a été pour moi une expérience de vie, en fait, parce que, justement, le fait de prendre le temps de discuter avec ces gens-là, avec ces personnes-là qui ont vécu tellement d'expériences, tellement d'obstacles, tellement d'oppression dans leur vie, c'était fascinant de voir justement cette résilience-là, surtout parce que la plupart de mes participants et participantes étaient dans la cinquantaine, soixantaine, même j'avais quelqu'un dans les 70 ans. Et puis pour moi, c'était vraiment comme un... j'oserais dire un exploit que la personne se rende là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance, oui, de vie d'une personne trans est vraiment plus faible qu'une personne cisgenre. Pour de multiples raisons dont je vais parler plus tard dans l'épisode, en fait, mais pour plusieurs raisons. Puis je trouvais que c'était un privilège pour moi, justement, d'avoir accès à ces récits de vie de ces personnes qui ont tellement de choses à dire et à partager. Et c'était mon objectif, justement, dans cette recherche, de mettre de l'avant les voix de ces personnes trans vieillissantes qu'on entend très, très, très peu. Si jamais ça vous intéresse, si vous êtes... si vous avez le goût de lire ma recherche, qui est un mémoire, donc qui n'est pas une lecture très... qui n'est pas une lecture de chevet, mais si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien vers le document que vous pouvez consulter. Ça me ferait plaisir si vous voulez le lire, et si vous voulez qu'on en discute aussi, ça me ferait plaisir. Donc je vais vous mettre le lien dans les informations de l'épisode. Et donc, où je voulais en venir avec cet épisode-ci, après cette longue introduction, pour moi, le concept d'intersectionnalité est un concept hyper important. Et puis, donc comme je dis dans ma recherche, c'est que cette approche-là, contrairement à la plupart des approches qui sont développées dans le milieu académique, est née à la fin des années 70 suite aux revendications issues du Combahee River Collective, qui est une organisation de féministes lesbiennes noires qui était basée à Boston et qui luttait pour le droit des femmes afro-américaines provenant des minorités sexuelles. Et cette explication est tirée du livre de Crenshaw, dont on va reparler plus tard aussi, de 1989. Et puis, comme expliquent certaines auteurs influentes de l'approche intersectionnelle, justement, l'intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire, donc qui traverse vraiment plusieurs disciplines et qui vise à appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales par une approche qui est intégrée. Ce qui veut dire que ce cadre théorique-là, en fait, ça vise à offrir une explication justement pour toutes les inégalités et toute la façon dont l'identité se crée. D'où mon choix de ce cadre théorique-là, justement parce que l'identité trans est au cœur de l'expérience vécue des personnes qui faisaient partie de ma recherche. Donc, de la pertinence justement pour moi d'utiliser ce cadre-là. Et je dois dire en fait que c'est un cadre qui me plaisait vraiment aussi beaucoup parce que ça rejoint vraiment ma compréhension du monde et vous allez voir en fait. Donc cette théorie-là réfute justement le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de différenciation sociale que sont les catégories de sexe, genre, de classe, de race, d'ethnicité, d'âge, d'handicap et d'orientation sexuelle. Ce qui veut dire, justement, que selon cette théorie-là, chaque catégorisation, justement, ce qui nous différencie, soit l'âge, l'orientation sexuelle, la classe, la race, dans cette théorie-là, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation, ce qui veut dire que ton identité ne se base pas plus sur l'âge que sur la race, que sur l'orientation sexuelle. Donc, il n'y a pas une catégorie qui est plus importante que l'autre. Et il n'y a pas un type d'oppression qui est plus important que l'autre. Toutes ces oppressions-là face à ces catégories-là, comme l'âgisme, le sexisme, le racisme, par exemple, il n'y a pas de hiérarchie et c'est pas parce que quelqu'un vit plusieurs types, justement, d'oppression. Dans le fond, c'est que ça crée une expérience unique à chaque personne et non comme un... C'est pas comme des couches qui s'ajoutent, c'est pas... Ça s'accumule pas, c'est que ça crée quelque chose de vraiment différent. Et justement, l'approche intersectionnelle va au-delà d'une simple reconnaissance de la multiplicité des systèmes d'oppression opérant à partir de ces catégories et postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités sociales. Ce qui veut dire, justement, c'est que toutes ces catégories-là sont en interaction, donc on peut pas analyser justement l'oppression que quelqu'un vit par rapport à son âge, sans qu'on analyse aussi toutes les autres catégories de son identité. Par exemple, l'oppression vécue par une femme âgée blanche, que par une femme âgée noire, que par une femme âgée asiatique ne sera vraiment, vraiment pas la même. Donc, ça crée vraiment des expériences différentes et c'est pas parce que quelqu'un vit de l'âgisme que cet âgisme-là va être vécu de la même façon par toutes les personnes qui en vivent. Donc, de façon très, très simplifiée, je pense que ça fait le topo pour l'intersectionnalité et je vais aussi faire le lien avec la sexualité et le cycle plus tard. Mais je voulais vraiment que vous compreniez ces concepts-là d'abord. Et aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé du concept de privilège. Et ça, c'est un concept qui m'a ouvert les yeux. J'étais au bac aussi encore quand j'ai entendu parler de ce concept-là. Et puis ça m'a vraiment ouvert les yeux justement sur une multitude d'expériences très, très insidieuses qu'on vit chaque jour sans s'en rendre compte selon notre identité, selon notre appartenance à certains groupes. Et peut-être que vous avez déjà vu le concept de la marche des privilèges qui consiste en fait à mettre un groupe de gens diversifiés sur une ligne et à nommer certaines expériences vécues. Par exemple, je n'ai jamais subi de discrimination selon mon orientation sexuelle. Et là, selon si c'est vrai ou non, la personne marche d'un pas ou reste à son endroit. Et quand on ouvre les yeux, parce que c'est fait en fait que les personnes ferment leurs yeux, et quand on ouvre les yeux, on se rend compte justement de cet impact-là du privilège sur toutes les sphères de notre identité. Et puis c'est pas l'avoir vécu, c'est très poignant, parce que justement, ces privilèges-là, comme je l'explique, c'est quelque chose qui nous est remis à notre naissance, quelque chose d'invisible, comme une boîte d'outils invisible, justement, qui nous est remis sans qu'on ne fasse rien pour obtenir ces outils-là, ces chances-là. Mais ce qui fait en sorte que si nous, on les reçoit, ça fait en sorte qu'il y a d'autres gens qui ne les reçoivent pas et qui donc n'ont pas les mêmes outils pour avancer, n'ont pas les mêmes opportunités, n'ont pas les mêmes chances, ne vivent pas les mêmes expériences. Donc, tout ça façonne vraiment l'expérience vécue des gens. Et justement, j'explique dans mon mémoire, le concept de privilège est une stratégie découlant de l'hégémonie culturelle. Donc, qu'est-ce qui est mis en place dans la culture? Qu'est-ce qui prône? Qu'est-ce qui est la norme? Afin de maintenir l'oppression des groupes non privilégiés. Comme l'explique Pauline Sans-Façon, qui est une auteure en 2010, la société canadienne contemporaine n'échappe pas à cette situation d'injustice. Donc, elle explique de façon claire comment ça se passe ici. Plusieurs aspects identitaires comme le genre, le groupe ethnique, la classe, l'âge, l'orientation et l'identité sexuelle et même le capacitisme sont au cœur du système d'oppression. Je vais vous donner un exemple très concret. Ici, quand on parle de capacitisme, justement, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se rendre à différents endroits parce qu'il n'y a pas de rampe qui est accessible pour leur fauteuil roulant, par exemple, ou qui sont à mobilité réduite, donc les marches ne sont pas accessibles pour eux ou pour elles. Ça, c'est quelque chose de hyper simple. Et quand on a une mobilité régulière, on ne pense pas à ce genre de choses-là parce que ça fait partie du privilège qu'on a reçu sans qu'on demande rien, sans qu'on fasse rien, du fait d'être capable de se déplacer de façon libre. Et puis, par contre, les personnes qui vivent justement avec cette oppression-là sont prises dans un système qui ne privilégie justement pas L'accessibilité, quoique c'est de mieux en mieux, mais ça reste encore très difficile. Et ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui doivent justement prendre du temps dans leur journée pour planifier leur déplacement, qui doivent téléphoner pour savoir en fait si y a une rampe pour leur fauteuil roulant. Il y a plusieurs personnes qui sont discriminées pour un emploi. Il y a plusieurs personnes qui sont discriminées pour un logement parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bref, une tonne de choses auxquelles on ne réfléchit pas, mais qui fait vraiment, vraiment partie justement de ce système d'oppression. Le concept de privilège selon Kellerman est intimement lié avec les concepts d'oppression et de stéréotypes. Les privilèges sont décrits comme étant des avantages que l'on obtient seulement en appartenant à un groupe donné. Comme j'ai dit tantôt, le privilège justement d'être à mobilité non réduite fait partie du fait qu'on est dans le groupe de personnes qui peuvent se déplacer librement. Ceci crée des relations de pouvoir entre les groupes dits privilégiés et les non privilégiés. Donc, les personnes qui se déplacent librement et celles qui sont à mobilité réduite. Il est très intéressant de voir qu'en vivant selon leur genre attribué à la naissance pendant une majorité de leur vie et en faisant la transition vers leur identité, les participants ont été en mesure de comprendre plus concrètement cette notion de privilège. Ici, je vous explique, en fait, c'est que je faisais le lien avec les participants et les participantes de ma recherche qui ont fait une transition plus tard dans leur vie. Donc, la plupart de ces personnes-là ont vécu quand même très longtemps selon le genre qui leur était attribué à la naissance. Et ce qui fait en sorte que quand elles ont fait leur transition, ces personnes-là ont compris justement un exemple très éloquent de ça. J'ai un ami qui est un homme trans qui a fait une transition à la fin, je dirais vers 18 ans environ, et au début de sa vingtaine, qui a vécu sous le genre qui lui a attribué à la naissance, donc sous le genre féminin pendant 18 ans. Et puis, quand il a fait sa transition, il m'a partagé en fait que dès le début, dès que les gens le reconnaissaient comme étant un homme, quand son identité était reconnue, il sentait vraiment cette différence d'attitude-là envers lui. Donc, il m'avait dit, quand je rentre dans une pièce, les gens écoutent ce que j'ai à dire versus quand les gens me percevaient comme une femme, les gens n'écoutaient pas ce que j'avais à dire. Et ça m'a frappée quand il m'a dit ça, parce que juste le fait d'être privilégié, d'être un homme, justement, d'avoir ce privilège-là, c'est tellement dans les petits gestes, c'est tellement très insidieux, c'est tellement ancré, justement, dans le système dans lequel on vit, que quand on a cette chance-là, là, je vais dire ça comme ça, cette opportunité-là d'avoir vécu en étant perçue comme une femme et là, en transitionnant vers son identité d'homme, c'est de comprendre justement cette dynamique-là, puis de percevoir que sans avoir absolument rien fait, les hommes sont privilégiés par rapport au fait qu'on les écoute plus, qu'on leur laisse plus de temps de parole, qu'on ne les coupe moins, qu'on leur coupe moins la parole. Bref, c'était tellement, tellement intéressant d'entendre mon ami me parler de ça. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et si jamais vous avez des personnes trans autour de vous et que vous avez le goût d'ouvrir cette discussion-là avec eux, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir un peu comment ces personnes-là ont vécu ça, justement. Et là, pour faire le lien, justement, avec la sexualité et le cycle, justement, ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous n'arrivons pas toutes égales devant la sexualité et le cycle menstruel selon nos identités et les systèmes d'oppression qui sont en place dans les sociétés dans lesquelles on vit chacune. Par exemple, la sexualité est une interaction assez complexe, vraiment, qui est teintée par toutes nos expériences vécues qui sont elles-mêmes teintées par nos privilèges et nos oppressions. Justement parce que quand on est en interaction avec des gens, c'est vraiment là que les privilèges et les oppressions prennent forme. Justement, le fait d'être une femme, d'avoir... parce que en fait, plus de 90% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. Donc déjà là, on voit qu'il y a un immense privilège du côté des hommes à ce niveau-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler aussi de l'écart de jouissance, où il y a un immense écart entre le fait d'avoir des orgasmes durant une relation sexuelle, tout indépendamment si on s'identifie comme homme ou si on s'identifie comme femme. Et puis ça, évidemment, je pourrais en parler longuement. J'ai fait un article justement sur le blog pour parler de ce concept-là, mais seulement pour vous dire que il y a tellement de facteurs, de choses qui sont ancrées dans nos façons de faire, dans notre compréhension, dans nos attitudes, dans la façon dont on aborde justement la sexualité, la façon dont on interagit avec l'autre, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, comment on est là pour prendre soin de l'autre versus ne pas prendre soin de l'autre. Fait que bref, c'est vraiment un concept hyper intéressant pour comprendre toutes ces différenciations-là. Et puis là, je parle la différence des genres, mais ça peut être au niveau aussi de l'orientation sexuelle, au niveau de l'âge, donc le fait qu'on perçoive la sexualité chez les aînés plus tabou, plus inexistante, quand ce n'est pas toujours le cas. C'est des exemples vraiment très concrets comme quoi le sexe ne se vit vraiment pas de la même façon et qui est vraiment teinté par toutes nos expériences de vie. Aussi, un dernier exemple sur ce thème-là qui est la précarité menstruelle qui fait en sorte que ce n'est pas toutes les personnes qui ont des menstruations qui ont un accès à des soins de santé de 1 ou qui ont accès à des produits d'hygiène aussi pour gérer justement le flot de sang. C'est un exemple vraiment très simple, mais ô combien frappant, je trouve. Puis c'est ça, tu sais, c'est qu'il y a tellement d'oppression qui font en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de groupes qui n'ont pas cet accès à des produits d'hygiène. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans le monde qui doivent rester à la maison justement parce qu'elles n'ont pas cet accès-là. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui manquent des semaines d'école, ce qui fait en sorte qu'elles sont moins éduquées, ce qui fait en sorte qu'elles ont moins d'opportunités d'emploi par la suite. Donc, bref, c'est un engrenage qui va très, très loin. Il y a aussi beaucoup de femmes qui se mettent en danger justement, et qui se sentent plus vulnérables, et là je dis de femmes, mais c'est de personnes qui ont des menstruations, qui se mettent en danger justement parce qu'elles n'ont pas cet accès à des produits d'hygiène. On pense par exemple aux femmes itinérantes, aux personnes itinérantes qui doivent justement vivre avec cette précarité-là. Bref, il y a une tonne d'exemples, mais je voulais vous montrer à quel point justement notre système d'oppression et le fait de comprendre justement tous ces enjeux-là avec un regard qui est intersectionnel, je trouve que ça l'amène vraiment une couleur beaucoup plus complexe et ça nous amène à réfléchir de façon beaucoup plus inclusive justement à toutes ces problématiques-là et à toutes les expériences vécues différentes qui valent la peine qu'on s'interroge, qui valent la peine qu'on prenne action justement. Et je veux terminer l'épisode en vous invitant justement à prendre action, à agir pour changer la situation, parce que je pense vraiment, comme j'ai dit hier dans ma story Instagram, comme j'ai dit il y a quelques semaines, oui, justement, je pense que la force du nombre peut vraiment faire une différence. Et quelques exemples justement d'actions qu'on peut faire, on peut s'éduquer, on peut faire du bénévolat, donc d'offrir notre temps à différents organismes. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Puis en ce moment aussi, étant donné qu'on est pas mal toutes confinées à la maison, il y a différentes façons d'aider en ligne aussi. Donc ça, c'est vraiment très cool parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Le fait de faire des dons aussi, donc je sais pas si vous avez vu passer ça, mais j'ai fait l'annonce en fait la semaine dernière que 5% des profits de toutes les ventes qui sont faites dans mon entreprise, en fait, tous les profits qui sont faits dans mon entreprise vont aller pour soutenir des organismes. Présentement, je mets l'emphase sur les communautés marginalisées, donc les femmes marginalisées, les communautés LGBTQ+, et justement les organismes qui œuvrent pour l'éducation et l'accès à la santé menstruelle. Donc pour moi, c'est vraiment des organismes qui me tiennent à cœur. Donc c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Et puis aussi, ce que je veux vous dire avant de vous laisser, c'est de prendre cet engagement-là dès maintenant, selon vos ressources. Parce que comme on vient de le dire, comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources, qui ont cet accès-là. Donc si pour vous, vous ne pouvez pas faire de dons, ça marche aussi. Si vous avez du temps à donner, c'est parfait. Si vous pouvez juste partager des informations en ligne, si vous pouvez vous éduquer, vous informer, c'est le genre de choses qui fait vraiment toute la différence. Je crois que chaque action, chaque geste compte et c'est en marchant justement toutes dans la même direction que les choses changent. Je pense que chaque geste est une goutte d'eau qui se transforme en océan de changement. Et j'ai le goût de vous laisser là-dessus justement, de vous inviter à prendre action selon vos ressources et à me faire signe aussi, parce que j'aimerais vraiment ça qu'on en discute ensemble. Donc faites-moi signe sur Instagram si c'est pas déjà fait, venez vous joindre à moi. Et sinon, vous pouvez tout m'envoyer un petit message, un petit courriel, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et j'aimerais vraiment ça, si vous aimez l'épisode, le podcast, je vous invite à le partager à une femme de votre entourage qui pourrait être intéressée, pour qu'on puisse faire découvrir le podcast à plus de femmes encore en 2021. Je souhaite justement que cette communauté-là s'agrandisse et c'est grâce à vous que ça va se faire. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire et à vous partager justement une tranche de vie plus plus intello pour moi. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt!